Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Onde Femme. Onde Femme, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, c'est Onde Femme comme tous les mercredis en direct dans notre studio de Ferney. Donc vous pouvez, si vous le désirez, nous appeler au 059 50 40 51 41, je répète 50 40 51 41, 059 si vous appelez depuis la Suisse voisine. Vous pouvez nous appeler pour nous poser des questions, pour nous dire ce que vous pensez de nos émissions, puisque je vous rappelle, Onde Femme, c'est la parole donnée aux femmes, c'est des questions concernant les femmes qui sont abordées. Si vous avez des propositions à nous faire, des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous appeler, de préférence lorsque c'est une musique, comme ça on peut plus facilement répondre au téléphone et ensuite passer sur l'antenne. Alors aujourd'hui dans Remue Ménage, je vous propose de faire une rencontre avec une femme népalaise. Cette femme s'appelle Mina Acharya, elle habite à Katmandou, la capitale du Népal. Elle est économiste, elle a fait ses études aux États-Unis et à Moscou. Comme un peu beaucoup de gens dans la classe plutôt aisée de ce pays. Elle a travaillé pour la banque nationale de son pays. Elle a fait de nombreux programmes de crédit et d'études sur le rôle économique des femmes dans le développement au Népal. Elle était invitée par l'organisation non gouvernementale suisse Helvetas. Helvetas qui fêtait il y a ces quelques semaines ses 20 ans de travail et d'existence. Et le Népal était le pays où Helvetas avait été travaillé pour la première fois. Il y avait lors de cette rencontre avec Mina Acharya, que j'ai rencontrée tout d'abord alors qu'elle parlait du tourisme et du rôle que le tourisme pouvait jouer dans un pays comme le Népal. Et elle était ensuite invitée à une conférence concernant les femmes au Népal. Elle avait été conviée à tenir cette conférence, entre autres par Rosemary Cosley, qui est membre du comité central d'Helvetas, qui a vécu 5 ans au Népal de 1972 à 1977. Rosemary était avec moi lors de la rencontre avec Mina Acharya. Vous verrez qu'elle participera avec nous dans la conversation avec Mina. Alors, Mina ne s'exprime qu'en anglais, bien sûr, puisque je ne parle pas népalais. Sur le moment de notre rencontre, il m'avait semblé plus simple de ne parler qu'en anglais, de ne pas faire de traduction immédiate. Je ferai donc cette traduction aujourd'hui sur sa voix. J'espère que ça ne la vous gênera pas. Si jamais, peut-être exprimez-vous un petit peu sur ce sujet de temps à autre sur notre répondeur ou en nous écrivant à Onde Femme, Remue Ménage. 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève, parce que nous avons souvent des invités en langue étrangère et on se demande des fois quel effet ça vous fait d'avoir toutes ces traductions et tout ça. Donnez-nous peut-être une fois votre avis. Alors, dans quelques instants, notre rencontre avec Mina Acharya, mais tout de suite, un monde tout à fait différent, celui d'Aretha Franklin.
Baby, we've got to have a little talk. Gonna have to pack up my things, I'm gonna walk. You say a dollar goes from hand to hand, but before I see you go from woman to woman, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log. Yes, I would. I love you, baby, but you just won't be fair. I don't believe you know how to be on the square. Now go on and have your fun if you must, but before I'll have another man that I cannot trust, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log. Yeah, we feel sober right now, Daddy Harry. Yeah, yeah.
accompagner durant notre entretien avec Mina Acharya, je n'ai pas trouvé de musique venant du Népal. J'ai trouvé des chants venant du Kurdistan. Cela n'a rien à voir. C'est un tout autre pays. Si ce n'est que, il semblerait qu'il y ait des points communs en matière de composition de chansons et de poésie. Au Népal, en Afghanistan, au Kurdistan, il se trouve que des femmes composent des chansons, écrivent des poèmes, qu'elles ne chantent pas elles-mêmes, souvent, si ce n'est à l'intérieur de leur famille, mais qu'elles composent pour exprimer leurs sentiments, leurs amours, qu'elles n'ont pas le droit d'exprimer à haute voix, normalement. Et c'est pour ça que j'avais envie aussi d'utiliser cette musique, même si elle n'est pas strictement de la région. Voilà. Et puis, nous entendrons aussi le très beau saxophone de Yann Garbarek, qui travaille ici avec un musicien du Pakistan. Voilà pour la musique et tout de suite, eh bien, notre rencontre avec Mina Acharya. Je vous rappelle, Mina est à l'origine économiste. Elle a travaillé sur des programmes de développement en tant qu'économiste dans la banque centrale de son pays, par exemple. Et puis, elle travaille aujourd'hui dans l'Institut pour l'étude de développement, qui est une organisation non gouvernementale et dans laquelle, eh bien, elle développe surtout des études qui concernent les femmes. Elle travaille avec des linguistes, avec des anthropologues, et tout ce qu'elle nous raconte, c'est entre autres lié aux nombreuses enquêtes, recherches, rencontres qu'elle a fait avec des femmes sur le terrain au Népal. Le Népal, je ne sais pas si vous connaissez, vous, le Népal. Personnellement, je n'y suis jamais allée, je ne connais que par les récits des livres que j'ai pu lire ou des amis que je connais qui y sont allés. Et à travers, petit clin d'œil, à la charmante petite Mindouk que je connais très bien, petite fille népalaise. Mais sur place, je ne connais pas grand-chose. Mais visiblement, il faut se représenter la géographie du Népal parce que c'est important dans la conversation que nous allons avoir avec Mina. Il semblerait que la situation des femmes, puisque telle est la première question que j'ai eu envie de poser à Mina Acharya, quelle était la place des femmes dans la société népalaise? Est-ce qu'elle ressemble à ce que l'on sait de la place des femmes dans la société indienne? Ou est-ce que c'est tout à fait autre chose, entre autres compte tenu de l'aspect géographique du pays et de la culture, de la tradition qui se développe à cause de la conformation du pays, à savoir la zone de plaine au sud du pays, beaucoup plus proche de l'Inde, et la zone de collines et de montagnes qui, elle, touche jusqu'au Tibet et qui fait qu'il y a certainement des traditions très différentes. Alors, j'ai posé cette question à Mina et elle nous répond tout de suite pour montrer la différence, effectivement, de situation des femmes selon ces régions.
So, Nepal is a multi-ethnic country and you cannot kind of generalize.
Alors le Népal est un pays avec beaucoup d'ethnies et on ne peut pas généraliser comme ça la situation de la femme. Si on parle de la situation des femmes au Népal, il faut distinguer selon à quelle ethnie elles appartiennent. Il y a plus de 100 groupes ethniques au Népal. Mais il semble qu'on puisse classifier toutes ces ethnies en deux grands groupes, l'indo-européen et le tibétain-birman. Ceci en tenant compte par exemple du problème du mariage, de l'âge à laquelle on marie les filles, la liberté de choix, et puis aussi le lien entre naissance et le mariage et l'âge, la famille où l'on va après le mariage. Il y a aussi la question du travail. Si on retient les femmes, par exemple, recluses à la maison, ou est-ce qu'elles peuvent sortir, si elles peuvent participer à des activités à l'extérieur de la maison. Donc on a décidé de faire deux groupes avec ces ethnies. Le groupe indo-aryen qui recouvre les plaines et les grandes villes comme Katmandou et puis le groupe tibétain-birman qui, bien sûr, réunit plutôt les collines, les hautes collines et les montagnes qui touchent au Tibet. Donc ça inclut bien sûr des villes comme Katmandou. Par exemple, la situation est très diverse suivant si l'on se trouve au sud du pays, dans une ville comme Janakpur, par exemple, parce que là-bas, on a complètement considéré comme idole Rama et Sita, qui se sont mariés, et ça a une très grande, l'influence religieuse de l'hindouisme a une très grande importance. Mais au Mustang ou au Manang, par exemple, c'est la polyandrie, où une fille peut arriver à se marier avec 5 frères.
Southern part of the country, Janakpur is the town where the very very idol of Hindu religion, Ram, was born and married to Sita, and this whole Ramayana story was gets enacted in Janakpur, her marriage and how they behaved. And then from there we go to the Tibetan like Mustang or Manang, where we have polyandrous marriages, where which means that a woman gets married to maybe 5 brothers together. She has to get married to 5 brothers. Whether that is good or bad, we don't know.
Alors si ces pratiques, la polyandrie ou autres, sont bonnes ou mauvaises, ça aujourd'hui, on n'en sait pas encore, mais c'est la pratique.
One thing is culture.
Alors, dans la détermination de l'appartenance à ces deux groupes, il y a d'un côté la culture, mais il y a aussi l'influence de la place que tient l'homme dans la maison sur les activités de la femme. Donc, Mina, est-ce que vous pourriez nous dire très concrètement quelle est la situation dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille, d'une femme qui vit dans les plaines, dans ce fameux groupe indo-arien ? Dans le groupe indo-arien, les femmes, les filles sont mariées très tôt. On leur dit que leur mari est égal à Dieu et qu'elles doivent consacrer toute leur vie à son bien-être et à sa descendance. Si elle n'aime pas le mari qu'on lui a choisi, elle ne peut bien sûr pas divorcer ni se remarier. Si son mari meurt, même si elle est encore très jeune, elle ne peut pas se remarier. Et donc toute sa vie est consacrée au lignage de la famille où elle a été mariée. Le mariage dans toutes les communautés au Népal n'est pas une affaire personnelle, individuelle, mais c'est une affaire sociale entre deux familles. Donc, on doit toujours considérer et consolider les responsabilités familiales. On doit être responsable de l'honneur de la famille, et l'honneur de la famille dépend de votre conduite, de votre comportement. Il y a donc, bien sûr, très très peu de liberté pour sortir de ces contraintes, et surtout pour les femmes.
And do the family of the woman has to give some dot to the other, the family of the husband, like in India, and does it?
Est-ce que les femmes doivent, les familles doivent donner des dots, comme c'est le cas en Inde, et est-ce que cela pose beaucoup de problèmes? La dot n'a jamais été vraiment un problème au Népal, suivant qu'on soit dans l'un ou l'autre des groupes ethniques. Mais dans la région de Lahori, par exemple, il y avait un système qui ressemble beaucoup à celui du nord de l'Inde. Il y avait un système de dot qu'on appelle telak, et c'est la somme que l'on paye à la famille du mari. La dot est ce que paye le père quand il donne à sa fille. Donc il y avait une sorte de deux sommes qu'il fallait donner, deux dots. Mais récemment, ces sommes exigées par les familles du mari ont augmenté beaucoup. Et c'est utilisé comme une sorte de moyen pour augmenter la richesse de chaque famille. Et je ne pense pas que le problème de la dot tient au poids de la tradition, mais il tient beaucoup plus au poids de l'égoïsme du système social moderne qui fait pression sur le système de la dot. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les femmes, les filles? Est-ce que les familles pauvres ne peuvent-elles marier leurs filles? Dans les familles pauvres, on ne donne pas de dot. Dans le Népal occidental, le mari paye, par exemple, même une somme à la famille de l'épouse. Donc, il n'y a pas une seule situation, une seule solution. Mais dans les familles, pour les femmes de familles pauvres, il y a quand même un problème de dot dans la mesure où les familles aimeraient faire épouser à leur fille un homme de classe sociale plus élevée. Alors, elles doivent payer une dot pour assurer sa vie future. Mais de toute façon, la vie n'est jamais vraiment assurée. Et c'est donc un problème très complexe.
It's a very complex problem, but what is troubling us is it's increasing.
Mais ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que les familles des hommes demandent toujours plus. Les hommes veulent maintenant des motos, des réfrigérateurs, ce qui n'existait pas du tout avant. Une dot traditionnelle consistait, par exemple, à ce que le père donne à sa fille un lit où elle allait dormir avec son époux et une grande jarre pour l'eau et pour laver les pieds et des draps. Ça, c'était la dot traditionnelle. Et parfois, le père donnait aussi des bijoux à sa fille ou des habits.
One big vessel like that to wash the feet, and then a bed and the bed sheets and things like that. That was the basic dowry in old days. And a few clothes you want to give, a pair of jewelry to your daughter, and some clothes you want to give to your daughter. That was the dowry. But nowadays, the modern families.
Mais aujourd'hui, les familles modernes ont commencé à demander des motos, comme je le disais, des réfrigérateurs, des meubles pour leur salon. Et c'est ça qui pose des problèmes. Les parents riches, eux, ils accéderont toujours à ces demandes parce que leurs filles n'ont déjà pas de droit à l'héritage. Alors, les femmes ont évidemment intérêt à recevoir ces biens à leur mariage car elles n'auront rien d'autre ensuite. Mais vous voulez dire, Mina, que la dot, la femme peut la garder pour elle, même si, par exemple, il arrive quelque chose à son mariage? Si elle reçoit des meubles, bien sûr qu'ils vont dans son salon. Donc, si quelque chose arrive à son mariage, elle gardera, ça lui reviendra. Mais disons qu'elle en profite surtout dans sa vie de tous les jours. Et donc, tout ce système, ça marche pour les familles riches.
Who has much wealth? It's giving is all right, but the main problem is for the middle class.
Mais le problème principal, c'est pour la classe moyenne, parce que comme ils veulent marier leur fille à un niveau plus élevé, ils cherchent une famille plus aisée. Eh bien, si ceux-ci demandent des choses incroyables, eh bien, c'est là que les problèmes commencent. Et dans les familles plus pauvres, il n'y a pas de dot.
Da perid gazel berdestane, dodmanday kameter kurdistane. Da perid gazel berdestane, wechawa desabrame kurdane, wechawa desabrame kurdane. Le dodman, le dodman, emru reshi. Le dodman, le dodman, emru reshi. Le dodman, le dodman, le dodman. Le dodman, le dodman, le dodman. Belane evindar apesmane. Smile.
Dodmam pir şirin başıma Deniştim anladım hezar yara Dodmam pir şirin başıma Li Kurdistan adım hezar dila Bu azadi dilu canim kurba Bu rızgari dilim aha gura le dodmam ömrü reşim le dodmam ömrü reşim le dodmam le dodmam ve le dodmam le dodmam ve elani
And so you were saying that the bride in the Indo-Aryan ethnic.
Vous disiez, Mina, que les femmes dans le groupe indo-arien doivent se consacrer à leur mari, à la famille élargie. Qu'en est-il du choix d'avoir des enfants?
With our family, it's a bigger family. And so what happens with her choices about children, for example, in that sense?
To have a child is a must for Nepali women. There is no choice.
Avoir un enfant est un devoir pour une femme au Népal. Elle n'a pas de choix. Et ça, c'est dans les deux groupes ethniques de la même chose. À l'âge de 25 ans, 93% des filles sont déjà mariées. Donc, le choix de la maternité ne dépend pas de l'ethnie. C'est un devoir d'avoir des enfants. Et si une femme ne peut pas en avoir, elle est vraiment montrée du doigt.
Elles sont mises de côté
dans
la société?
Non, elles ne sont pas mises de côté, mais elles se sentent elles-mêmes dégradées, elles sont socialement victimes d'ostracisme. Et il y a bien sûr toujours le danger que le mari amène une autre femme, ce qu'ils font d'ailleurs souvent, pour avoir des enfants, même s'il aime sa femme. Et ça, c'est la même chose dans les deux groupes ethniques.
Ils veulent la continuation de leur progeny, et donc ils apportent une autre femme. Et c'est vrai du Tibeto-Burman groupe, et c'est vrai de l'Indo-Aryan groupe.
Another wife means that they divorce from the first one.
Avoir une autre deuxième femme signifie qu'ils divorcent de la première.
They can bring another wife if there is no children.
Ils peuvent avoir une autre femme si la première ne leur a pas fait d'enfant. Ils peuvent se remarier. Mais vous comprenez, dans notre situation sociale, c'est bien mieux de rester comme ça, avoir plusieurs femmes dans la même famille, que de divorcer, parce que. La femme ne peut pas se remarier. Elle ne possède rien. Elle n'a pas droit à l'héritage venant de ses parents. Et donc, elle n'héritera non plus pas de la famille de son mari si elle divorce. Alors, mieux vaut rester mariée, car tant que vous restez mariée, la femme a des droits d'hériter de sa belle famille, même si elle n'a pas eu d'enfant.
You can inherit, claim property, inherit from them, even if you have no children.
Mais si elle se divorce, elle n'a plus la possibilité d'obtenir aucun moyen financier et elle ne peut pas se remarier. Alors, à quoi ça sert de divorcer?
Rosemary, je crois que vous avez une question à demander une précision à Mina à propos de l'héritage, justement.
Oui, moi je me demandais vraiment si les femmes au Népal ont le droit de posséder de la terre. Est-ce qu'elles peuvent hériter de la terre? Are the women allowed to have land, to heritate land? How is it happening and how is the constitution?
Constitution doesn't talk about inheritance, but it does talk about equality.
La Constitution ne parle pas de l'héritage, mais elle parle d'égalité. Une femme peut hériter n'importe quel bien, y compris la terre, mais seulement de la famille de son mari. Les biens sont partagés également entre elle et son mari et ses fils. Si par exemple dans une famille il y a deux fils, eh bien on partage l'héritage en quatre, une partie pour elle, une partie pour son mari, une partie pour chaque enfant. Donc le problème n'est pas que la femme ne peut pas hériter de terre. Le problème, c'est qu'une fille n'hérite pas des biens de sa famille, de ses parents. Ce sont les fils qui héritent.
Daughters cannot inherit property in parents. Parents' property. Only sons inherit. And so, with the consequence that when daughters are growing up,
durant toute son enfance, on répète à une fille qu'elle ira dans la maison de quelqu'un d'autre. Alors, elle se sent jamais dans une certaine sécurité sociale ou psychologique. Et jusqu'à ce qu'elle se marie, et jusqu'à ce qu'elle ait un enfant, elle n'aura aucune sécurité dans la maison de son mari. Elle a droit d'hériter si elle a été sexuellement loyale envers son mari. Et si celui-ci meurt, elle doit lui rester loyale pour pouvoir hériter. Et quelqu'un peut l'accuser d'adultère et elle sera automatiquement déshéritée.
To inherit. Somebody can blame her into adultery and then disinherit her. And this is happening.
Et ceci arrive dans toutes les collines népalaises.
And so what's the situation where she can inherit?
Alors comment se passe-t-il lorsque, par exemple, son mari meurt? Est-ce qu'elle va hériter aussi de la terre, par exemple? C'est pas ses fils qui vont prendre. Même si le mari est vivant et qu'il a amené une deuxième femme, la première femme peut exiger la moitié des biens, y compris la terre. Mais il faudra souvent qu'elle se batte pour cela. Et souvent, comme elle est analphabète, alors on lui amène des papiers qu'elle ne peut pas lire, on lui explique n'importe quoi, et elle doit poser sa signature, le plus souvent son pouce en guise de signature. Et le résultat, c'est que de fait, elle a renoncé à son droit de propriété. Et voilà ce qui arrive souvent.
And then, since they cannot read, and they will tell her all kind of stories that how this is needed and how she is going to be do about this, and thus she puts the signature unknowingly, and she gives away all her right to property. So that's what is happening. It's not that legally she cannot inherit. She can inherit, but the inheritance is not in her parental household.
Donc le problème n'est pas qu'elles n'ont pas le droit d'hériter. Le problème c'est qu'elles n'arrivent pas à hériter des biens de leurs parents.
Her husband's household.
Mina, you just told us that women are don't know how to read and write.
Is it Mina, vous venez de nous dire que les femmes sont illettrées. Et alors, est-ce qu'il y a un grand pourcentage de femmes illettrées? Et pourtant, dans la Constitution, vous nous avez dit aussi que les femmes sont censées être les égales des hommes. Alors, pouvez-vous nous donner d'autres exemples de ce fossé qui semble exister entre à la fois les lois qui existent et puis la pratique dans la réalité?
Gap that there is between the laws existing today in Nepal and what's going on in reality.
Yeah, only 25% of the women are literate in Nepal compared to 55% men.
Seulement 25% des femmes sont instruites au Népal pour 55% chez les hommes. Alors l'éducation, c'est bien sûr un problème aussi compliqué. Tant que les parents n'ont pas de problème d'argent, eh bien, ils envoient tous leurs enfants à l'école. Mais dès qu'il y a des problèmes d'argent, eh bien, la première à être retirée de l'école, c'est bien sûr la fille. Et les parents vous expliquent que de toute façon, elle ira dans une autre famille et que son éducation profitera donc à la maison de son mari. Et que pour eux, c'est leur fils qui devra s'occuper d'eux quand ils seront vieux. Parce que la fille n'a pas à s'occuper de ses parents lorsque ceux-ci sont vieux.
So she will be benefit her education is for her husband's house. So for us, it is the sons who will look after us in the old age. Daughters don't have to look after their parents.
One hour, limit, chicken.
la del percek ah 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 hemar ev del veran